Chapitre 5 Autre côté louche de Gilliatt. L'opinion n'était pas bien fixée sur le comte de Gilliatt. Généralement, on le croyait marcou. Quelques-uns allaient jusqu'à le croire cambion. Le cambion est le fils qu'une femme a du diable. Quand une femme a d'un homme 7 enfants mâles consécutifs, le 7e est marcou. Mais il ne faut pas qu'une fille gâte la série des garçons. Le marcou a une fleur de lys naturelle empreinte sur une partie quelconque du corps, ce qui fait qu'il guérit les écrouelles aussi bien que les rois de France. Il y a des marcous en France un peu partout, particulièrement dans l'Orléanais. Chaque village du Gâtinais a son marcou. Il suffit, pour guérir les malades, que le marcou souffle sur leurs plaies ou leur fasse toucher sa fleur de lys. La chose réussit surtout dans la nuit du Vendredi Saint. Il y a une dizaine d'années, le marcou dorme en Gâtinais, surnommé le beau marcou, et consulté de toute la Beauce, était un tonnelier appelé Foulon, qui avait cheval et voiture. On dut, pour empêcher ces miracles, faire jouer la gendarmerie. Il avait la fleur de lys sous le sein gauche. D'autres l'ont ailleurs. Il y a des marcous à Jersey, à Origny et à Guernesey. Cela tient sans doute au droit que la France a sur le duché de Normandie. Autrement, à quoi bon la fleur de lys? Il y a aussi dans les îles de la Manche des scrofuleux, ce qui rend les marcous nécessaires. Quelques personnes, s'étant trouvées présentes un jour que Gilliatt se baignait dans la mer, avaient cru lui voir la fleur de lys. Questionné là-dessus, il s'était, pour toute réponse, mis à rire, car il riait comme les autres hommes quelquefois. Depuis ce temps-là, on ne le voyait plus se baigner. Il ne se baignait que dans des lieux périlleux et solitaires, probablement la nuit, au clair de lune, chose, on en conviendra, suspecte. Ceux qui s'obstinaient à le croire cambion, c'est-à-dire fils du diable, se trompaient évidemment. Ils auraient dû savoir qu'il n'y a guère de cambion qu'en Allemagne. Mais le Val et Saint-Sanson étaient, il y a 50 ans, des pays d'ignorance. Croire, à Guernesey, quelqu'un fils du diable, il y a visiblement là de l'exagération. Gilliatt, par cela même qui l'inquiétait, était consulté. Les paysans venaient, avec peur, lui parler de leur maladie. Cette peur-là contient de la confiance, et, dans la campagne, plus le médecin est suspect, plus le remède est sûr. Gilliatt avait des médicaments à lui, qu'il tenait de la vieille femme morte. Il en faisait part à qui les lui demandait et ne voulait pas recevoir d'argent. Il guérissait les panaries avec des applications d'herbes, la liqueur d'une de ses fioles coupait la fièvre. Le chimiste de Saint-Sanson, que nous appellerions pharmacien en France, pensait que c'était probablement une décoction de quinquina. Les moins bienveillants convenaient volontiers que Gilliatt était assez bon diable pour les malades, quand il s'agissait de ses remèdes ordinaires. Mais comme marcou, il ne voulait rien entendre. Si un scrofuleux lui demandait à toucher sa fleur de lys, pour toute réponse, il lui fermait sa porte au nez. Faire des miracles était une chose à laquelle il se refusait obstinément, ce qui est ridicule à un sorcier. Ne soyez pas sorcier, mais si vous l'êtes, faites votre métier. Il y avait une ou deux exceptions à l'antipathie universelle. Sieur Landois, du Clos Landès, était clerc greffier de la paroisse de Saint-Pierre-Port, chargé des écritures et gardien du registre des naissances, mariages et décès. Ce greffier Landois tirait vanité de descendre du trésorier de Bretagne, Pierre Landais, pendu en 1485. Un jour, Sieur Landois poussa son bain trop avant dans la mer et faillit se noyer. Gilliatt se jeta à l'eau, faillit se noyer lui aussi, et sauva Landois. À partir de ce jour, Landois ne dit plus de mal de Gilliatt. À ceux qui s'en étonnaient, il répondait « Pourquoi voulez-vous que je déteste un homme qui ne m'a rien fait et qui m'a rendu service ?» Le clerc greffier en vint même à prendre Gilliatt en une certaine amitié. Ce clerc greffier était un homme sans préjugés. Il ne croyait pas aux sorciers. Il riait de ceux qui ont peur des revenants. Quant à lui, il avait un bateau. Il pêchait dans ses heures de loisir pour s'amuser, et il n'avait jamais rien vu d'extraordinaire, si ce n'est une fois, au clair de lune, une femme blanche qui sautait sur l'eau, et encore, il n'en était pas bien sûr. Moutonne Gaï, la sorcière de Torteval, lui avait donné un petit sac qu'on s'attache sous la cravate et qui protège contre les esprits. Il se moquait de ce sac et ne savait ce qu'il contenait. Pourtant, il le portait, se sentant plus en sûreté quand il avait cette chose au cou. Quelques personnes hardies se risquaient, à la suite du sieur Landois, à constater en Gilliatt certaines circonstances atténuantes, quelques apparences de qualité, sa sobriété, son abstinence de gin et de tabac. Et l'on en venait parfois jusqu'à faire de lui ce bel éloge. Il ne boit, ne fume, ne chic ni ne snuffe. Mais être sobre, ce n'est une qualité que lorsqu'on en a d'autres. L'aversion publique était sur Gilliatt. Quoi qu'il en fût, comme Marco, Gilliatt pouvait rendre des services. Un certain vendredi saint, à minuit, jour et heure usités pour ces sortes de cures, tous les scrofuleux de l'île, d'inspiration ou par rendez-vous pris entre eux, vinrent en foule au but de la rue, à mains jointes et avec des plaies pitoyables, demandèrent à Gilliatt de les guérir. Il refusa. On reconnut là sa méchanceté.